This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazz en l'histoire, ou quand le jazz retrouve des repères, une émission de Gérard Viol, c'est Alain Vaquier, réalisée par Léna Kim. Cette année-là, donc, en 1951, eh bien, la France est encore en guerre. Voilà 5 ans que l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale a été signé, mais il a été signé pour l'Europe. La France est engagée dans son empire colonial et donc elle est encore engagée dans une zone que l'on appelle Indochine. Alors, ce que l'on appelle, à partir des années 1900-1905, l'Indochine, en fait, représente un ensemble disparate de possessions et de protectorats français. Alors, il faut évidemment faire la distinction entre une possession, une colonie, et un protectorat. Une colonie, c'est un pays où le pays possédant, donc, fait la loi, administre sans autre forme de procès. Et un protectorat, c'est un pays qui est mis sous protection, comme son nom l'indique un petit peu, du pays protecteur, donc en l'occurrence la France, par l'ensemble des nations. Et donc la Société des Nations avait donc mis sous protectorat français un ensemble de territoires que on pourrait dessiner aujourd'hui comme regroupant le Vietnam d'aujourd'hui, le Cambodge et le Laos, qui donc ont été conquis entre 1858 et 1896. Si la partie méridionale du Vietnam actuel était alors nommée Cochinchine, qui est la région du delta du Mekong, célèbre pendant la guerre du Vietnam, cette Cochinchine est une colonie. La Nam, lui, qui représente le Vietnam du centre et du nord, est, lui, un protectorat. Alors c'est ce qui fait la différence, c'est qu'on va avoir, comme plus tard avec les Américains, mais là, dès le début avec les Français, un partage de cette zone de l'Indochine en deux, avec un nord et un sud. Vietnam du nord, Vietnam du sud. Laos du nord, Laos du sud. Alors, il n'y a pas eu ce phénomène avec le Cambodge parce qu'il se situe un peu en dessous des deux autres pays en question. Alors, ce découpage explique beaucoup de choses et explique que tout s'est concrétisé autour de cette partition. En 1951, ce qui se passe, c'est que c'est la dernière année de l'offensive française réussie. Le chef des forces françaises, c'est le général Delattre de Tassigny, qui est un homme célèbre parce qu'il a fait la guerre en Europe avec grand succès. Et donc, c'est sa dernière année de commandement en Indochine et il lance une série d'offensives, lesquelles offensives vont réussir. Alors, la première aura lieu du 13 au 17 janvier 1951, c'est la bataille de Vinh Dien et qui voit la victoire très nette des armées du général Delattre de Tassigny. La deuxième offensive aura lieu, elle, du 23 au 28 mars et verra également une victoire importante sur ce qu'on appelait à l'époque le Viet Minh, que sous les Américains on a appelé le Viet Cong, mais c'est à peu près la même chose, avec la bataille de Mao Ke. À partir de ces deux victoires successives des forces françaises, les résistants vietnamiens vont complètement changer d'attitude. Et le général Giap, qui dirige les forces vietnamiennes, va cesser de rechercher l'affrontement direct avec les forces françaises et il va se contenter d'organiser une guérilla. Cette guérilla, qui va être une sorte de guerre d'usure à l'égard des forces conventionnelles françaises, va leur réussir, puisque ça va déboucher quelques années plus tard sur Dien Bien Phu et à la défaite totale et définitive des Français, lesquels seront remplacés par les Américains qui n'obtiendront pas de meilleurs résultats parce que face aux forces conventionnelles militaires, eh bien, c'est chaque fois la guérilla vietnamienne qui va réussir par des moyens dérisoires à vaincre des forces conventionnelles très importantes. Parce qu'il faut dire que ce soit la France ou les États-Unis, On a engagé dans ces deux campagnes successives des forces, enfin surtout une puissance militaire absolument énorme. Il faut savoir que, par exemple, le Viet Minh acheminait les cartouches qui servaient aux fusils sur des bicyclettes, quand en face, il y avait des chars et une aviation. Eh bien, la bicyclette a triomphé des chars et de l'aviation.
En Indochine, dans la zone nord du delta tonkinois, les troupes françaises, après plusieurs mois de retraite, sont passées à l'attaque. Après avoir bousculé quatre bataillons de réguliers Viet Minh et leur avoir infligé de lourdes pertes, un groupe mobile a réussi à reconquérir le poste de Da Phuc, dont la garnison avait succombé devant les assauts de forces 10 fois supérieures en nombre. Des 130 hommes qui ont héroïquement défendu Da Phuc, il en restait 5 pour accueillir les hommes venus libérer le poste qui avait été puissamment fortifié par les Viet. En dépit de pertes cruelles, partout au Nord-Vietnam, les Français reprennent l'initiative des opérations et les régions occupées par les rebelles sont continuellement bombardées par l'aviation. La guerre d'Indochine entre dans une nouvelle phase.
Au Nord-Vietnam, d'importantes forces d'infanterie franco-vietnamiennes ont été engagées aux environs du poste de Maké, objectif principal de la dernière offensive Viet Minh. De nombreuses unités blindées ont été employées pour soutenir les fantassins qui, en quelques heures, réussissaient à déjouer le plan d'attaque ennemi et à passer à la contre-offensive avec l'appui d'incessants tirs de barrage de l'artillerie lourde. La reconnaissance aérienne permettait de constater par la suite l'efficacité de ce bombardement. C'est du poste de Dong Trieu, charnière du dispositif français, que le général Delattre et son état-major ont dirigé et suivi ces opérations qui marquent l'échec des offensives de grand style tentées au cours de ces derniers mois par le commandement Viet Minh. Au Nord-Vietnam, l'opération Méduse, déclenchée il y a une quinzaine de jours pour nettoyer la région du Delta située à une vingtaine de kilomètres de Haïphong, s'est achevée par un succès total des troupes franco-vietnamiennes. Devant la forte résistance des Viet, les chasseurs bombardiers munis de fusées explosives ont été engagés dans la bataille ainsi que plusieurs escadrilles de bombardiers lourds. Ensuite en action, et après un pilonnage systématique des villages fortifiés encore aux mains du Viet Minh, l'infanterie poursuivait sa progression. Les Viet devaient laisser 1200 morts sur le terrain et plus de 3000 prisonniers entre les mains des commandos ayant pris part à cette importante opération.
Voilà donc trois archives tirées des actualités françaises de l'époque, dont on aura remarqué le caractère triomphaliste, qui est un peu dérisoire quand on sait ce que l'histoire a ensuite donné. Et puis les termes tout à fait tendancieux, les termes bronzés sont les Viet, d'une manière très péjorative, parce qu'on aurait pu dire les Vietnamiens, et faire état d'un pays, mais bon, là ce sont les Viet. Et puis surtout ce terme les rebelles, en l'occurrence des gens qui étaient en train de défendre simplement leur territoire, chose qu'avaient pu faire les Français lorsque l'armée allemande a occupé le territoire français. Donc on voit que dans certaines situations, on trouve légitime certaines réactions, mais quand la situation vous est peu favorable, on trouve les réactions adverses peu légitimes. C'est quand même assez paradoxal. Alors je crois qu'il faut dire un mot quand même de celui qui a été l'organisateur de la victoire, des deux victoires successives d'abord sur les armées françaises, puis sur, beaucoup plus tard, sur les armées américaines dans les années 60, c'est le général Giap. Alors, c'est un Vietnamien, c'est un communiste historique, évidemment, professeur d'histoire, qui donc a été le grand ordonnateur de l'armée vietnamienne de résistance et qui a élaboré peu à peu cette théorie de guérilla et qui s'est donc attaqué essentiellement à la logistique des armées. Et une armée dont la logistique ne suit pas, on sait bien qu'elle se trouve très rapidement hors de combat. Et c'est une sorte de petit génie militaire qui était ce général, qui avait d'ailleurs été formé en France et qui a su élaborer une théorie particulièrement adaptée et au terrain, climat tropical, et à la nature de la végétation aussi, qui permettait de dissimuler tous les déplacements et puis également de forces réduites face à des forces conventionnelles très importantes. Voilà, le général Giap qui donc sera le grand vainqueur, notamment du piège dans lequel l'armée française était tombée quelques années plus tard, dans les années 56, à Dien Bien Phu. 51, je l'ai dit tout au long de la semaine, c'était donc une année où soufflait un air frais sur le jazz avec l'arrivée de nouveaux musiciens dont la notoriété allait peu à peu inscrire un nouveau courant de jazz que l'on allait appeler quelques années plus tard le jazz cool. Alors, on a vu certains de ces musiciens, un assez grand nombre, et il en est un tout à fait significatif qui se fait connaître à ce moment-là et qui, en même temps, donne un son à un quartet, et en l'occurrence le quartet de Dave Brubeck, et c'est le saxophoniste alto Paul Desmond. Frénésie, une composition d'Alberto Dominguez que l'on entendait ici au Conga et qui est donc un des premiers enregistrements qui réunit Paul Desmond, saxophoniste alto, et Dave Brubeck au piano. Ils étaient accompagnés par Wyatt Rather à la basse et Herb Barman à la batterie. Ces deux musiciens ne resteront pas très longtemps avec les deux premiers. D'autres les rejoindront, qui seront des fidèles, parmi les fidèles de ce quartet qui deviendra très, très célèbre. Ceci a été donc enregistré à San Francisco en novembre 1951. Alors, c'est ce quartet, donc, avec Paul Desmond, qui va peu à peu se faire connaître et avoir une notoriété qui va durer presque jusqu'à nos jours. Pas vraiment, puisque Dave Brubeck ne joue plus aujourd'hui. C'est un des quartets qui aura la plus grande longévité, avec ce son si particulier, très pur, du saxophone alto de Paul Desmond. La même année donc, où ils enregistrent Frénésie, ben ils enregistrent d'autres titres. Et je vous propose d'écouter Crazy Chris, une composition de Paul Desmond et Dave Brubeck en août 1951. Paul Desmond, Dave Brubeck en compagnie de Fred Dutton à la basse et Herb Barman à la batterie à San Francisco en 1951. Alors, c'est peut-être le moment de se poser la question de ce courant cool, le fameux courant cool, dont beaucoup disaient qu'il venait de l'Ouest, alors que le jazz, disons plus, qu'il avait précédé, venait plutôt de l'Est. Peut-on ainsi territorialiser l'émergence d'une musique ou d'un courant musical? Alors certes, pas mal de musiciens que l'on a qualifié de cool venait de la côte ouest, mais il y en était beaucoup qui donc venaient aussi de la côte ouest, et cette distinction est, semble-t-il, pas très opérante. Alors, ce qu'il en est, en tout cas, c'est que ce courant cool a eu une importance plus grande qu'on ne le croit. C'est ce qui a caractérisé tout au long de son histoire le jazz jusqu'à aujourd'hui, c'est que le jazz a progressé par emprunt ou par influence. Le jazz qui venait de l'Est, parce qu'il était né à l'Est des États-Unis, a toujours été âpre, rugueux, souvent violent, et souvent venant d'une communauté qui elle-même subissait des violences. Donc, le jazz incarnait une forme de revendication, d'affirmer une identité afro-américaine. Avec le cool, les musiciens sont sensibles à d'autres influences, ne serait-ce que pour étendre leur public. Et on verra des chanteurs comme Nat King Cole ou Ray Charles s'installer à Los Angeles, par exemple, et modifier un peu leur façon de faire pour atteindre un public plus large, avec des arrangements plus doux, plus suaves, plus évocateurs. Et donc ce courant va être une façon pour le jazz d'intégrer d'autres influences comme celle de la musique européenne, et non pas en perdant de vue, mais en laissant un peu en arrière de la main l'influence purement africaine. Et donc, il va s'élaborer. Et il est vrai que c'est une musique beaucoup plus élaborée que les musiques précédentes, très écrite, et souvent avec des musiciens à grande notoriété qui sont des Blancs, à la différence du jazz qui a précédé, où les musiciens de grande notoriété étaient des Noirs. Voilà. Mais sans opposition entre blanc et noir, c'est la musique dans sa totalité qui évolue vers des formes plus écrites, plus harmoniques, et qui va alors permettre à cette musique et à ce jazz de devenir une des musiques les plus écoutées aux États-Unis dans les années 50. Deuxième enregistrement de ces années 50 par le quartet de Dave Brubeck, il s'agit de Lions Basie. Thank you. Lions Bazzy sur un tempo d'enfer. Et les baguettes de Herb Barman à la batterie, enregistrées en août 51 à San Francisco. C'est une composition de Dave Brubeck avec donc Paul Desmond au saxophone alto et Fred Dutton à la basse. Alors s'il composait, et là aussi c'est une des grandes innovations, c'est que ces musiciens de courant cool composaient beaucoup et de très beaux thèmes en général, eh bien ils ne négligeaient pas de se retourner vers quelques standards. Des standards souvent tirés de comédies musicales, et c'est ainsi que cette même année, le quartet avec Paul Desmond en solo allait enregistrer une composition de Jérôme Kern et John Hammerstein, All the Things You Are. Things You Are, une belle, très belle ballade, merveilleusement interprétée par Paul Desmond au saxophone alto, un de ces musiciens dont le son entre dans l'oreille et ne la quitte pas. Ainsi s'achève ce quatrième épisode des années 51, de l'année 51, pour cette semaine. Demain, nous terminerons avec un cinquième épisode, mais c'est bien évidemment une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.